Ils coururent longtemps, tantôt sur la terre sonore, tantôt sur la fange ou parmi les herbes sifflantes, tantôt dans la brousse ou dans les tourbières, tantôt gravissant les côtes et tantôt dévalant éperdument. Bien avant que le soleil fût au milieu du firmament, ils avaient 6000 coudées d'avance. Souvent, ils espérèrent que l'ennemi cesserait de la poursuite, mais lorsqu'ils atteignaient une cime, ils finissaient toujours par découvrir la meute acharnée des dévoreurs d'hommes. Or, Gao s'affaiblissait. Sa blessure n'avait pas cessé de répandre du sang. Quelquefois, ce n'était qu'un filet insaisissable. Malgré la calopade furieuse, la plaie semblait close. Puis, après quelques efforts plus brusques ou quelques faux pas dans une fondrière, le liquide rouge se mettait à sourdre. De jeunes peupliers s'étaient rencontrés. Nao avait construit un tampon de feuilles, mais la blessure continuait à saigner sous le bandage. Peu à peu, la vitesse de Gao devint égale, puis inférieure à celle d'Exam. Chaque fois, maintenant que les fugitifs se retournaient, l'avant-garde d'Exam avait gagné du terrain. Et le fils du léopard, avec une rage profonde, songeait que si Gao ne reprenait pas quelque force, il serait rejoint avant d'avoir pu atteindre le troupeau des mammouths. Mais Gao ne reprenait pas de force. Une colline se présenta, qu'il gravit avec une peine excessive. Au sommet, les jambes tremblantes, le visage couleur de cendre, le cœur exténué, il chancela. Et Nao, tourné vers la troupe fauve, qui commençait à gravir la pente, vit combien la distance avait encore décru. « Si Gao ne peut plus courir, dit-il d'une voix creuse, les dévoreurs d'hommes nous auront rejoints avant que nous n'arrivions en vue du fleuve. Les yeux de Gao sont obscurs, ses oreilles sifflent comme des grillons, balbutia le jeune guerrier. Que le fils du léopard continue seul sa course. Gao mourra pour le feu et pour le chef. Gao ne mourra pas encore. » Et, se tournant vers l'Exam, Nao poussa un furieux cri de guerre. Puis, jetant Gao sur son dos, il reprit sa course. D'abord, son grand courage et sa formidable musculature lui permirent de garder son avance. Sur le sol déclive, il bondissait, emporté par la pesanteur. Flexible comme des branches de frêne, ses jarrets soutenaient cette chute incessante. Au bas de la colline, son souffle s'accéléra, ses pieds s'alourdirent. Sans sa blessure, qui brûlait sourdement, sans le coup de massue sur la tête, qui faisait encore bruire ses oreilles, il aurait pu, même avec Gao sur l'épaule, devancer les dévoreurs d'hommes, aux jambes trapues et lassées par une longue course. Mais il avait dépassé ses forces. Nulle bête sur la steppe ou sous les futaies n'aurait pu mener une tâche aussi longue et aussi harassante. Maintenant, sans relâche, la distance décroissait, qui le séparait d'Exam. Il entendait leurs pas gratter la terre et y rebondir. Il savait à chaque moment de combien ils se rapprochaient. Ils furent à 500 coudées, puis à 400, puis à 200. Alors le fils du léopard déposa Gao sur la terre, et les yeux hagards, il eut une hésitation suprême. « Gao, fils du Saïga, » dit-il enfin, « Nao ne peut plus t'emporter devant les dévoreurs d'hommes. » Gao s'était redressé. Il dit « Nao doit abandonner Gao et sauver le feu. » Tout engourdi, car malgré les secousses, il avait dormi sur l'épaule du chef, il se secoua, il étendit les bras, et l'Exam, parvenu à 60 coudées, levait leurs sagaies pour commencer la lutte. Nao, résolu à ne fuir qu'au dernier moment, leur fit face. Les premiers projectiles bourdonnèrent. Lancés de trop loin, la plupart retombaient, sans même parvenir jusqu'aux oulames. Un seul, effleurant Gao à la jambe, lui fit une blessure, aussi légère qu'une épine d'églantier. À la riposte, Nao atteignit le plus proche des dévoreurs d'hommes. Ensuite, il transperça le ventre d'un guerrier qui s'avançait à grands bonds. Ce double exploit jeta le trouble parmi les agresseurs d'avant-garde. Ils poussèrent une clameur épouvantable, mais s'arrêtèrent pour attendre du renfort. Cette pause fut favorable aux oulames. La piqûre semblait avoir réveillé Ga. D'une main encore faible, il avait saisi un harpon et il le brandissait, attendant que les ennemis fussent à bonne portée. Nao, voyant le geste, demanda. Gao a donc repris de la force ? Qu'il fuit, Nao retardera la poursuite. Le jeune guerrier hésitait, mais le chef reprit d'un ton bref. « Va !» Gao se mit à fuir, d'un pas qui, d'abord lourd et hésitant, s'affermissait à mesure. Nao reculait, lent et formidable, tenant à chaque main une sagaie, et l'Exam hésitait. Enfin, leur chef ordonna l'attaque. Les dards sifflèrent, les hommes bondirent. Nao arrêta encore deux guerriers dans leur course, et prit du champ. Et la poursuite recommença sur la terre innombrable. Gao parfois retrouvait ses jarrets, parfois s'alanguissait, les muscles mous, le souffle rude. Nao l'entraînait par la main. L'avantage n'en restait pas moins aux Xam. Il suivait d'un trot soutenu sans même se hâter, confiant dans leur endurance. Or, Nao ne pouvait plus emporter son compagnon. La grande fatigue et la fièvre rendaient sa blessure pesante. Son crâne s'emplissait de rumeurs, et par surcroît il avait heurté son pied contre une roche. « Il faut que Gao meure, » ne cessait de répéter le jeune guerrier. « Nao dira qu'il a bien combattu. » Sombre, le chef ne répondait point. Il écoutait le trot des ennemis. De nouveau, ils furent à 200 coudées, puis à 100, tandis que les fugitifs gravissaient une pente. Alors, le fils du léopard, rassemblant ses énergies profondes, maintint la distance jusqu'au haut du mamelon. Et là, jetant un long regard sur l'Occident, la poitrine palpitante à la fois de lassitude et d'espérance, il cria « Le grand fleuve, les mammouths !» L'eau vaste était là, miroitante parmi les peupliers, les aulnes, les frênes et les vernes. Le troupeau était là aussi, à 4000 coudées, paissant les racines et les jeunes arbres. Nao se rua, entraînant Gao dans un élan qui leur fit gagner plus de 100 coudées. C'était le dernier soubresaut. Ils reperdirent cette faible avance, coudée par coudée. L'exam poussait leur cri de guerre. Quand 2000 coudées séparèrent Nao et Gao de la cime du mamelon, l'exam était presque à portée. Ils gardaient leur pas égal et bref, d'autant plus sûrs d'atteindre les oulams qu'ils les acculeraient au troupeau de mammouths. Ils savaient que ceux-ci, malgré leur indifférence pacifique, ne souffraient aucune présence, donc ils refouleraient les fugitifs. Toutefois, les poursuivants ne négligeaient pas de se rapprocher. On entendait maintenant leur souffle, et il fallait encore parcourir 1000 coudées. Alors Nao poussa une longue plainte, et l'on vit un homme émerger d'un bois de platane. Puis une des énormes bêtes leva sa trompe avec un baril strident. Elle s'élança, suivie de 3 autres, droit vers le fils du léopard. L'exam, effaré et content, s'arrêtèrent. Il n'y avait plus qu'à attendre le recul des oulamres, à les cerner et à les anéantir. Nao, cependant, continua de courir pendant une centaine de coudées. Puis, tournant vers l'exam son visage creux de fatigue et ses yeux étincelants de triomphe, il cria « Les oulams ont fait alliance avec les mammouths. Nao se rit des dévoreurs d'hommes. » Tandis qu'il parlait, les mammouths arrivèrent. À la stupeur infinie d'exam, le plus grand mit sa trompe sur l'épaule de l'oulam, et Nao poursuivit. Nao a pris le feu, il a abattu 4 guerriers dans le campement, il en a abattu 4 autres pendant la poursuite. L'exam répondirent par des hurlements de fureur. Mais, comme les mammouths avançaient encore, ils reculèrent en hâte, car, pas plus que les oulams, ils n'avaient encore conçu que l'homme pût combattre ces hordes colossales.